Bonjour, alors je suis Fabien Elpech, je suis responsable syndical des contrôleurs à Toulouse et des jeunes Midi-Pyrénées, CGT.
Bonjour. Donc, c'en est où alors ce mouvement de grève
Chez les cheminots.
Chez les cheminots.
Mais écoutez, du retour des terrains, on a eu une téléconférence hier à la région. On a pu recueillir du coup les témoignages des différentes régions. Alors bon, on cache pas qu'il y a quelques petites reprises au bout de 7-8 jours de grève, ça commence à être dur, mais là, globalement, le rapport de force est maintenu, raison pour laquelle nous avons porté à Angers la volonté de reconduire le mouvement ce matin jusqu'à demain afin de continuer à peser sur les débats.
Et donc, vous m'avez dit lundi qu'en Assemblée Générale, vous n'avez jamais été aussi nombreux que lundi. Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme hier et aujourd'hui ?
Oui, on reste sur le même nombre de participants. Alors, non, on a eu 90 lundi, mais là, on est 80. Voilà.
D'accord.
Donc, ça reste très fort.
Ça, c'est pour les contrôleurs, donc. Ça, c'est pour les contrôleurs dont tu es.
Pour les contrôleurs, là, oui.
Donc, un tiers de l'effectif.
De Toulouse.
Un tiers de l'effectif, à peu près.
Oui, c'est ça.
Ok. Et c'est à peu près pareil chez les conducteurs, je crois, un tiers aussi.
Oui, on est dans le même acabit, oui.
D'accord. Alors, là, tout à l'heure, il y a une manifestation à 14h, dans une demi-heure, avec les intermittents, les chômeurs, les hospitaliers aussi, qui sont en grève. On a entendu parler aussi ce matin de la grève des chercheurs. Ça s'annonce convergence des luttes à tous les étages, là, ou qu'est-ce qui se passe, donc ?
Alors, je sais qu'aujourd'hui, confédéralement, il y a une commission exécutive qui a été convoquée en urgence, de façon, dans un premier temps, à mettre la pression au gouvernement, et puis, dans un second temps, bien sûr, de tenter de faire un regroupement de lutte. Mais actuellement, nous, on reste quand même dans un combat cheminot. Je vous cache pas que ça arrive un peu trop tard, puisque certaines forces commencent
à faiblir.
C'est normal.
Il y a un petit décalage de quelques jours qui a fait que du coup ça n'a pas embrayé en même temps, quoi.
Voilà. Oui,
ok. Parfait. Et alors hier la loi a été examinée à l'Assemblée nationale. Il y avait un rassemblement devant. Est-ce que d'abord sur ce rassemblement, est-ce qu'il y a eu des violences policières ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose où ça s'est plutôt bien passé ?
Hier devant l'Assemblée nationale.
Voilà.
Oui, je ne sais pas si vous avez pu le voir, effectivement, il y a eu deux cortèges en fait qui devaient se rejoindre, et apparemment, comme ils n'avaient pas les effectifs suffisants, ils les ont empêchés de se rejoindre, et du coup, ça a un peu dérapé, il y a eu du gazage, un peu de coups, il y a des vidéos qui circulent sur Internet là-dessus. Je vous cache pas que on a un peu mal à notre gauche quand on voit de telles vidéos. Car ceux qui étaient légitimes sous l'ère Sarko le deviennent beaucoup moins, c'est là, sachant que pour la plupart d'entre nous, beaucoup ont voté pour Hollande. Donc voilà, on se demande où est passé le candidat socialiste.
Très bien.
On se demande surtout où est passé la gauche et les socialistes.
On est d'accord.
Et du coup, est-ce que au niveau à l'intérieur de l'Assemblée, cette fois se discuter le projet de loi, alors on parle de députés frondeurs, on parle d'Europe Écologie Les Verts, du Front de Gauche, même la droite commence à dire qu'il y a des choses à changer, enfin certains à droite en tout cas. Sur le front législatif, est-ce que tu as des informations à nous transmettre sur l'avancée de la loi ? Est-ce que ça recule un peu dans cette réforme ou on reste vraiment à la marge, quoi.
Non, il n'y a rien d'avancé concret, il n'y a rien d'avancé si ce n'est les engagements qui ont été signés par l'UNSA et la CFDT que je rappelle qui ne fait pas partie du préavis, qui se gargarisait d'avoir déjà fait passer des amendements et que ça suffisait pour ne pas faire grève. Elle a quand même réussi à signer une conciliation qui ne lui appartenait pas. Donc on trouve ça un peu fort de café.
C'est-à-dire, tu peux préciser la conciliation ?
La conciliation de la semaine précédente, là où les OS participatrices.
Les organisations syndicales, ouais.
Les organisations syndicales participatrices ont été reçues par Cuvillier.
ouais.
le secrétaire d'État au transport, et on a obtenu quelques bougettes, hein. On n'ose même pas appeler ça des avancées, ça ne reste que de la communication. D'ailleurs, les députés de droite ont confirmé notre ressenti, puisqu'ils ont très bien dit que si eux revenaient au pouvoir, tout ça, ça sautait. Ils garderaient que l'infrastructure sous le nom de RFF, ils ne l'appelleraient même plus SNCF Réseau, et après le reste, ça éclaterait. Donc, notre diagnostic quant à la réforme proposée par le gouvernement se trouve vérifié là.
Petite question, parce que là, il y a des trucs que je comprends pas. L'État a scindé en deux la SNCF avec RFF et le trafic. Maintenant, ils veulent le remettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'il y avait avant ? C'est surtout ça, par.
D'accord. Alors, en 97, c'est vrai que malgré nos avertissements, nous, la CGT, nous étions contre à l'époque, on leur avait dit, on avait séparé le rail de la roue, ce qu'on appelle un peu plus prosaïquement, c'est-à-dire que le réseau, toute l'infrastructure était gérée à part afin de faciliter, in fine, la mise en concurrence libre et non faussée, si chère à la Commission européenne.
Puisque les autres entreprises...
Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que du fait du rapport de force des cheminots depuis 4 ans, lors des différentes manifestations, ainsi que les grèves, on a pu faire bouger le projet initial de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, elle, voulait faire une holding et tout éclater. Donc, Cuvillier, quand il a pris ses fonctions, nous avait annoncé qu'il réintégrerait le tout, et c'est ce qu'il, là, il se gargarise de faire, sauf que, entre-temps, depuis qu'ils sont au gouvernement, ils changent leur fusil d'épaule, ils écoutent plutôt les patrons que les cheminots ou que les salariés. Et on se retrouve donc à une solution un peu intermédiaire, c'est-à-dire que ça reste séparé en des entités séparées qu'on appelle EPIC, établissement public industriel et commercial, mais dans le groupe SNCF. Mais ce que nous, on souhaite, et ce que n'intègre pas ce projet, c'est une société intégrée, c'est-à-dire que tout le monde travaille dans le seul objectif de faire du service public et non du fric. Quoi.
Ce qui fait aussi que, du coup, ils veulent cloisonner comme ça, décloisonner et mettre des trucs complètement dispersés, c'est que tout simplement, les entreprises privées en concurrence européennes sont elles organisées sur ce principe où une s'occupe du rail, une s'occupe du transport de voyageurs, une s'occupe de l'administratif. Enfin voilà, c'est vraiment très, très séparé et c'est vers ça qu'ils veulent tendre. Sauf qu'on a vu, par exemple, on a des infos sur l'Angleterre où apparemment, depuis la privatisation, il n'y a jamais eu autant d'accidents et de problèmes. Et ça a été, y a un film, The Navigators, qui raconte bien ça, de Ken Loach. Et est-ce que tu as des infos, toi, sur ce qui se passe ailleurs en Europe ?
Je sais qu'actuellement, d'ailleurs, en Suède, ils sont en grève justement pour contre une entreprise Veolia, qui est un opérateur, et qui se retrouve finalement dans le même système. On a eu l'exemple aussi belge, et vous venez de citer les Anglais. Voilà, on n'a aucun contre-exemple qui montre que ce système marche. C'est la raison pour laquelle déjà il faut solutionner le problème de la dette, ce qui n'est pas fait, ce que le projet du gouvernement ne porte pas, c'est-à-dire que tant que là on sera étranglé par la dette, ça sera l'austérité en termes de moyens pour pouvoir faire circuler les trains en sécurité et ainsi éviter des accidents, par exemple comme celui qu'on a eu à Brétigny l'année dernière. Il faut bien comprendre que service public et rentabilité à tout prix ne marchent pas ensemble. Il faut, et c'est la raison pour laquelle la CGT porte ce projet de service public qui dépasse largement le cadre des cheminots et leur simple revendication en tant que salarié corporatiste, quoi. Voilà.
De toute façon, le service public n'a pas à être rentable. C'est simplement mettre les conditions pour que l'économie fonctionne. Mais je voulais revenir sur la sur le. Est-ce que la dette vient pas du tout TGV qui a été mise en place ces 30 dernières années?
Si, si, on paye en fait l'investissement pour l'aménagement du territoire dans les années 80. Ceci ajouté à un fort taux d'endettement, enfin, un fort taux.
Des forts taux d'intérêt.
Voilà, d'intérêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à 40 milliards, toutes les dettes réunies. Et il y a en plus un problème de fonctionnement. Il y a une dette de fonctionnement aussi chaque année. Le système, pour qu'il soit bien, que ça roule bien, il faut 2 milliards. Mmh. La réforme présentée ne propose que d'en réduire de 500 millions.
Alors,
et alors des 1 milliard restants, 1 milliard et demi restants.
Alors il y a une autre question que je voudrais te poser, c'est que quand on parle du rail, on pense transport de voyageurs, mais il y a autre chose qui est en jeu derrière, c'est le transport de marchandises, le fret comme on l'appelle, fret qui s'est dégradé de conditions horribles depuis 10 ans, 20 ans, et que les voies sont progressivement abandonnées. On t'avait invité en janvier, tu nous en parlais déjà justement de l'abandon du fret. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le rapport entre cette réforme ferroviaire et le fret justement?
Ouais, d'ailleurs, cette réforme ferroviaire ne parle pas du tout du fret, justement. C'est nous qui demandons à ce qu'elle en parle et qu'on le prenne en compte, tel que la dette, qu'on regarde ce problème et qu'on essaye d'y réfléchir pour à des solutions durables.
Parce la réforme ne parle même pas du sujet, quoi.
Pardon ? Ah non, il refuse de mais comme de parler de la dette. Il a fallu attendre une forte mobilisation des cheminots pour qu'enfin ils commencent à en parler, mais sans donner de solutions concrètes à court ou moyen terme.
Tout ce qui monte comme des avances.
Pardon ?
Tout ce qui monte comme des avancées, en fait, c'est parce que les cheminots sont mobilisés depuis 5 ans, en fait. Toutes les petites avancées qui se glorifient, c'est ça.
Oui, mais c'est à la marge, vraiment à la marge.
D'accord.
Par exemple, sur le cas de la dette, bon, sur le fret, ils n'en parlent pas. Sur le cas de la dette, ils disent qu'effectivement, il y a une dette et qu'il va falloir trouver du financement. Mais ils disent pas comment, ils disent pas combien, ils disent pas quand. En fait, ça, on peut pas... vu que c'est le nerf de la guerre, tant qu'il y aura l'austérité, on manquera du coup des moyens pour entretenir le réseau, on manquera des moyens pour investir également dans la production, que ce soit en termes de matériel qu'en termes de moyens humains. Et vous savez que c'est le service public a besoin quand même de ferroviaire d'une mise en qualité, puisque ils ont connu des trains, c'est la sécurité, c'est la continuité du service. C'est aussi pour ça que nous, on est sensibles au service public.
Et justement, comme vous parlez de service public, c'est là que vous montrez, comme chez les intermittents quelque part, que votre lutte, elle est vraiment d'intérêt général. C'est-à-dire que c'est pas la lutte des cheminots, en fait. C'est des cheminots qui se mobilisent pour le service public du rail.
Tout à fait, oui, voilà, c'est ça. Nous, on porte bien ce projet-là. D'ailleurs, le projet qu'a élaboré la CGT afin qu'elle soit euro-compatible, c'est-à-dire que quand même on l'a fait vérifier par des juristes spécialisés sur les lois européennes, porte le nom de la voie du service public. Effectivement, le quatrième paquet ferroviaire, directive européenne, qui nous impose la séparation comptable des activités, ça c'est vrai. Mais seulement, on peut quand même revenir à une entreprise intégrée tout en gardant la séparation comptable.
D'accord.
Donc vous voyez qu'on peut avoir un projet compatible et que celui mené par le gouvernement est purement politique, en fait. C'est une bataille politique qu'on mène. C'est pour ça qu'on essuie depuis 8 jours du mépris, des mensonges, des attaques. On rentre en guerre psychologique. Ils nous mentent sur notre mobilisation. Ils désignent pas les moyens en termes de communication pour essayer de nous démobiliser.
Surtout qu'en plus ils ont la complicité des grands médias nationaux.
Pas de Canal Sud.
J'ai bien dit les grands médias nationaux. En parlant fret, il y a quelques temps, ils avaient fait l'autoroute fret en train qui partait de l'est, je crois, de la France pour arriver en Espagne. Ça continue, ça a été supprimé cette chose.
Oui, écoutez. écoutez, quand on voit chaque année le perte de kilomètres, de tonnes par kilomètre transportées, on voit que c'est purement un échec. Il n'y a pas vraiment, si ce n'est des beaux mots, qu'une volonté politique à faire ça. D'ailleurs, notre principal concurrent est nous-mêmes, puisque dans le groupe SNCF, il y a une des 987 filiales. C'est une
987
Oui, voilà, 987 filiales, groupe SNCF, et parmi elles, il y a des transporteurs en bus, un site de covoiturage,
Keolis,
et un transporteur en camion.
Keolis, voilà. Qui s'appelle, voilà. Et qui transporte effectivement des plus gros.
Voilà.
Et du coup, vous, la CGT, par rapport à cette question-là, parce que, enfin, même si elle n'est pas sur la table dans la réforme, elle est quand même centrale, puisque c'est le transport de marchandises et c'est la question écologique, la transition, tout ça. On en parle en ce moment. Qu'est-ce que vous proposez à CGT sur la question du fret, justement ?
Qu'on revienne déjà à un système intégré.
Qui permettrait de faire du fret aussi, quoi.
Pardon ?
Qui permettrait. En fait, le système intégré intégrerait aussi le fret, c'est ça ?
Tout à fait, comme ça l'était à l'époque. Avant, nous, ce qui nous a fait mal, c'est l'histoire du wagon isolé. Depuis qu'on a perdu ça, tout est parti soit au privé, soit par les camions, parce qu'il revient moins cher aux entrepreneurs de faire transporter leurs marchandises sur autoroute que par train.
Wagon donc, isolé, tu peux expliquer aux auditeurs
alors,
rapidement.
Le wagon isolé, c'est un wagon que c'est ce qu'on appelle. Parce qu'on paye, en fait, le tarif a été augmenté, de mettre un wagon à disposition de façon à ce qu'un train revienne et se compose au fur et à mesure de son trajet. Donc ça permettait à des entrepreneurs de pouvoir charger leur cargaison et de l'amener à destination par un convoi déjà programmé. Quoi.
Oui. De toute façon, la politique, ça a été le train complet, point. Pendant longtemps.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
C'est-à-dire qu'on charge à Évian, 40 wagons et ils sont déchargés à Marseille ou à Bordeaux et puis voilà quoi.
Oui, voilà. Et on supprime les niveaux intermédiaires dans la formation du train, moins ça coûte cher, donc raison pour laquelle on favorise ce que vous appelez le train complet. Mais finalement, ça ne profite qu'à à ceux qui ont des gros moyens pour pouvoir transporter leurs marchandises.
Le reste, on
fait des camions. Et on sait à chaque fois, c'est 1 million de camions de plus par an sur les routes. Alors, où on nous parle du Grenelle d'environnement, on trouve ça aussi une ironie quand même.
Et alors, du coup, là, votre mobilisation donc continue. Alors, on ne dira pas qu'elle s'amplifie, mais on dira qu'elle se poursuit. C'est déjà pas mal après une semaine de grève assez aussi importante. On n'avait pas connu ça, je crois, depuis je ne sais pas combien d'années. Quels sont les prochains rendez-vous, là, du coup, pour vous ?
Alors, nous, on fait le point, donc, du coup, chaque jour, on reconduit de 24 heures. On regarde déjà le premier point, vu qu'on est quand même une organisation syndicale responsable. On regarde quand même le rapport de force. Est-ce qu'il se maintient ? Est-ce que c'est frite ? Pour l'instant, il se maintient. C'est pour ça qu'on appelle les cheminots à continuer à peser dans les débats parlementaires au même moment que les débats parlementaires se passent à l'Assemblée nationale. Bon, mais voilà, après, on fait un point, comme je vous l'ai dit. Bon, demain matin, il y aura conférence téléphonée de tous les secteurs avant la tenue des AG. Et on verra en fonction des cheminots ce qu'ils veulent faire. Puisqu'en plus, le préavis national est souvent couplé par des préavis locaux pour régler des histoires internes et locales. Quoi. Donc voilà, chaque fois, c'est les cheminots qui choisissent. Seulement, voilà, nous, on leur fait l'état des lieux. Et pour l'instant, il est plutôt bon, donc on continue.
Est-ce que, une dernière question, peut-être, plus de fonctionnement, la CIP, la Convention des intermittents et précaires, fonctionne sous un mode assez particulier, assez très ouvert, on va dire. La CGT fonctionne sous un mode, on va dire, plus organisé et plus encadré. Est-ce que ce mode d'organisation, selon toi, hein, bon, t'es syndicaliste, mais... est-ce que c'est pas parfois un frein à des mobilisations ou au contraire tu penses que c'est plutôt un atout qui permet de cadrer les choses et que les choses se fassent correctement ?
Ouais, c'est un peu un débat philosophique qu'on peut mener, y compris avec d'autres syndicats. C'est vrai que nous, on est fort. part de l'expérience de cette organisation. Il est vrai aussi qu'on est passé à un autre siècle. Je vous cache pas qu'on n'est pas toujours dans le tempo du temps. Par exemple, vous parlez d'ouverture ou de fermeture, c'est pas qu'on soit fermé. Mais c'est vrai que les informations elles remontent de niveau en niveau et que parfois c'est lourd pour faire bouger le tank qu'est la CGT. Par contre, quand on bouge, on peut dire qu'elle est efficace. Enfin, c'est l'organisation la plus efficace en France, il me semble. Donc certes, on n'est peut-être pas trop réactif ou on a l'impression de l'extérieur que c'est pas trop réactif.
Comme un diesel,
d'un
quoi.
D'un autre côté, pour appeler à la grève, il suffit pas d'appuyer sur un bouton, quoi. Ça demande des débats dans les sections, dans les différentes sections, dans les différentes fédérations. Et le temps que, bien sûr, que tout ça remonte afin que ceux qui se trouvent en haut puissent faire un melting pot des revendications, bien cadré dans un congrès aussi. Hein. Il y a les congrès entre-temps qui cadrent la politique générale. Vous savez qu'on peut, ça peut paraître, mais ça marche comme pas mal de partis politiques, il me semble.
Donc c'est un diesel, en fait. Ça met un peu de temps à l'allumage. Et une fois que c'est parti, par contre, ça ne s'arrête plus.
voilà. Après, on tape, quand on tape, on met les moyens pour y arriver. Et donc les moyens, voilà, mais puis les gens ont confiance dans notre fonctionnement du fait de l'expérience, comme je vous disais tout à l'heure.
Historique. Très voilà, bien.
Personne n'est parfait, hein, ceci dit, je suis sûr que si on faisait une critique, on avait le temps à faire une critique, on essaye. Hein,
dans la lutte, c'est compliqué de faire l'autocritique voilà. Pendant qu'on est en mobilisation.
Voilà, le mieux c'est de faire ce qu'on faisait, comme on fait à chaque fois, puisque on n'a pas le temps de l'improvisation. Ceci dit, moi je m'occupe aussi du collectif jeune, et c'est dans cette instance-là, qui est un peu un laboratoire de la future CGT, qu'on essaie de mettre en œuvre de nouvelles façons de militer. Quoi.
Moi j'aurais une question à vous poser, parce que je sais que la grève coûte cher, c'est-à-dire qu'il y a des rentrées qui ne vont pas arriver à la fin du mois. Est-ce qu'il y a une caisse de soutien qui a été créée quelque part, et si vous l'avez, où est-ce que vous pouvez le donner à l'antenne?
Alors oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que confédéralement également il y a eu on essaye de faire converger les luttes dans un premier temps, et puis on a reçu une tonne de mails d'autres fédérations, d'autres métiers nous soutenant dans cette lutte, et effectivement tout se centralise par Union départementale CGT. Là où on peut verser effectivement une caisse de soutien. Moi, je vous avoue que nous, cheminots, ça fait pas partie de notre culture que de faire grève par procuration. Donc je pense pas qu'on l'utilise, mais on a d'autres organismes comme l'ONCF qui est un organisme des orphelins. Et la dernière fois, en 2010, ça s'était fait de la même façon, on avait tout reversé à l'ONCF, quoi. Donc,
après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez servir des cheminots, parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver un peu dans la merde et qui vont peut-être pas pouvoir partir en vacances, du coup.
Sachant que le gouvernement a bien réaffirmé, et on le réaffirme toujours à chaque fois parce qu'on l'oublie presque, que effectivement les jours de grève ne seraient pas payés pour tous les cheminots. Eh bien, merci camarade pour ton intervention. Et puis donc on se retrouve là à 14h au Capitole pour un rassemblement, si je ne me trompe pas.
Alors oui, c'est vrai qu'on a on avait ce rendez-vous là, seulement il a fallu qu'on règle des problèmes là d'urgence avec notre direction qui ne désigne pas sur les moyens pour nous démobiliser.
C'est-à-dire
ils disent même de Bob, ils ont fait venir il faut venir des huissiers. Il y a ce matin, il y a eu trois de nos camarades qui ont été interpellés par la BAC. Voilà, donc du coup, symboliquement, on a donné rendez-vous à notre direction tout à l'heure à l'endroit où il y a eu cet échauffement. Quoi.
D'accord. Voilà. Très bien. Bon courage à vous, et puis on continue à suivre, bien sûr, tout ce qui se passe. Et ouais, l'antenne vous est ouverte.
Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Allez, au revoir. Merci.
Et ben voilà, fin.
Oui. C'est la fin du magazine.
C'est la fin du magazine.
On va terminer en musique, tiens, on va dédier le dernier morceau.